Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Mais bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, après un hommage rendu à Pierre Mulon et Gérard Fayolle, ben, nous allons reprendre un livre qu'on avait laissé un peu en suspens, Sublime Périgord, la fabrique d'un territoire d'exception. C'est un livre de Philippe Grandcoin, La Faille Fouetti. Et il a été édité par Les Ardents Éditeurs en 2021. Alors c'est un livre d'un format un peu plus grand que la normale, avec une très belle couverture très cartonnée et qui a quand même 240 pages. Alors on va voir un peu ce que nous dit la quatrième de couverture. Partir à la découverte d'une des destinations préférées des touristes français et étrangers, tout en expliquant les origines et les étapes de son succès. Telle est l'ambition de Sublime Périgord, croisant le regard d'une géographe et d'un historien. Ce livre invite à revivre par le texte et par l'image cette lente alchimie qui, depuis bientôt 2 siècles, a fait découvrir et changer ce territoire. Alors Hélène Lafaille Fouetti et Philippe Grandcoin suivent ainsi du 19e siècle à nos jours la mutation du regard porté sur des paysages et monuments. Ils revisitent aussi bien la littérature et le cinéma que la peinture ou la photographie. Analyse ce que le Périgord doit à sa gastronomie, à ses sites préhistoriques, à ses vestiges antiques et médiévaux, à ses villages, à ses saveurs. Alors se dessine aussi de Montaigne à la Bibreuil, en passant par les Britanniques et les chefs étoilés, l'importance de ces ambassadeurs anonymes ou célèbres qui ont contribué à la fabrication de ce territoire d'exception. De la Squame Rantôme, de Sarlat à Montpazier, de la double Aubergerie à Coye, il dresse une carte tout en nuance et en richesse, où se découvre au coin d'une halle, au détour d'un sentier ou au débouché d'une ruelle, une région qui a su allier préservation, patrimoine et invention d'un art de vivre. Alors on va reprendre la lecture donc de ce livre. Voilà, alors bien sûr il y a les hauts lieux, mais il y a un endroit quand même qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est Fanlac. Fanlac, un nom et la mémoire de Jacques le Croquant. Alors je vais en faire un peu la lecture. C'est tout un condensé du Périgord que l'on retrouve avec Fanlac, toponyme d'origine gallo-romaine. C'est d'abord un lieu, un village typique à proximité de Montignac. La pierre blonde, les roses trémières et les toits en loze, des maisons et manoirs encerrent l'église avec son clocher-mur et son presbytère. Situé sur les hauteurs, comme beaucoup de villages de la région, Fanlac est passé à la postérité en devenant l'épicentre des lieux de tournage du feuilleton de Stendhal Lorenzi, Jacques le Croquant, à la fin des années 60. Et oui, ça fait quand même... ça fait une paye, voilà. Bon, alors, si le roman ne se déroule pas précisément en ces lieux, la proximité du château de Lerme et de la forêt Barade était un atout majeur aux yeux du réalisateur qui a trouvé un village parfaitement conservé et dont il fait enfouir toutes les lignes électriques. Quand même été un sacré travail tout ça. Alors, interprété par Ray Damen, le succès du héros est immense, d'autant plus que, comme le souligne Gérard Fayolle dans son ouvrage Le Périgord de Jacques le Croquant, il n'existe à l'époque que 2 chaînes. Eh bien oui, maintenant on est passé quand même à une multiplicité de chaînes. Alors, il entourage l'importance de la date de diffusion du feuilleton en 1969, contrairement à la vision très romantique du film de Laurent Boutonnat 2007, tourné en Roumanie, la série originelle est politiquement très engagée. Fait d'éloge d'un monde révolté en écho à l'actualité à la fin des années 1960. Mais oui, 1960, c'est quand même des dates 68 à retenir. Alors, quoique un peu à l'écart des grands circuits touristiques, de nombreux visiteurs y déambulent chaque année en admirant les maisons rénovées notamment par des étrangers. Fanlac est donc un lieu, mais aussi un nom, celui de la plus célèbre maison d'édition locale fondée en 1943 par Pierre Beaucornu. Celui-ci, écrivain, imprimeur, éditeur, s'est choisi le pseudonyme de Pierre Fanlac en hommage à sa famille originaire du Périgord, du village du même nom. Auteur et éditeur de nombreux ouvrages sur le Périgord, il fait connaître au grand public un patrimoine local avec des œuvres de Jeanne Leroy, de Georges Rocal, accompagné d'illustrations de grande qualité comme celle de Maurice Albin. Il est Il est, alors, pour Maurice Salve, je veux dire que ce livre, Sublime Périgord, a quand même des illustrations très jolies de Maurice Salve. Alors, je reprends la lecture. Il est aussi éditeur de littérature, de poésie, Jean Giono, François Gérias, René Guy Cadou, Pierre Segers, etc., etc. Restez à Périgueux dans le quartier de Vaison jusqu'en 2018 pour s'installer dans de nouveaux locaux à Aubas, à proximité de Montignac et de Fanlac, faisant à nouveau de ce territoire un cœur artistique, paysager et touristique du Périgord. Alors donc on va passer quand même un peu à la gastronomie. Alors il y a un chapitre qui s'intitule « Le diamant noir du Périgord ». Alors voici la lecture en gros. Si la consommation de truffes semble remonter à l'Antiquité, c'est au XVIIIe siècle qu'elle fait son apparition en Périgord. Déjà présente dans le Comtat venaissin ou dans le Quercy, la tuber melanosporum s'invite dans les parcelles laissées en friche après la destruction d'une grande partie du vignoble par le phylloxéra. Oui, ça a été quand même un drame important. Elle est si abondante à la fin du XIIe siècle que certains journaliers exige qu'elle n'apparaisse pas dans le repas quotidien. Après la Première Guerre mondiale, elle devient un produit de luxe, régulièrement travaillé par des grands chefs et des tables parisiennes les plus prisées. C'est un produit saisonné de décembre à fin février, d'autant plus rare qu'il est difficile de trouver et demande un sol calcaire surtout présent en Périgord noir. Trois techniques dominent pour trouver l'emplacement de la truffe grâce à une mouche avec l'aide d'un cochon ou encore d'un chien. Je me souviens quand j'étais gosse, on allait dans des endroits où normalement il devait y avoir des trucs, je ne me rappelle plus si on en a trouvé, et on essayait de les trouver à la mouche. Mais bon, c'est pas toujours facile. Alors même si la truffe blanche d'été peut apporter quelques parfums, c'est bien la truffe noire qui affole les marchés sur lesquels on trouve aussi bien des grossistes, des touristes que des autochtones pour qui le commerce permet d'arrondir confortablement certaines fins de mois. Celles des premières catégories peuvent atteindre entre 700 et 1300 euros le kilo sur l'un des 12 marchés contrôlés et réglementés par les producteurs. Déclinées dans différentes recettes comme la brouillade, la sauce périgueux ou le tourneau d'eau Rossini, le tourneau d'eau Rossini avec un peu de truffe, c'est pas mauvais. Son arôme est tel qu'une petite quantité suffit à parfumer pâté et volaille. Devenu le produit phare du Périgord, elle s'accompagne d'une mise en tourisme importante avec des visites de truffières ou des cours de cuisine. Faisant rimer convoitise, peu acceptable financièrement un grand public, quoique un peu moins onéreuse dans sa version blanche et estivale, elle contribue à renforcer l'image d'un Périgord terre d'excellence. Alors, Repetto, la célèbre marque de chaussons de danse et de chaussures de luxe installée à Saint-Médard d'Exilet, ne s'y est d'ailleurs pas trompé, et vient de commercialiser une ballerine dont le motif de la toile reprend celui de la structure de la truffe. Alors, évidemment, c'est le... Comment je pourrais dire, c'est vraiment le produit phare, le produit phare de la, du Périgord. Alors, il y a bien sûr d'autres choses. Il y a le Périgord artistique et culturel. Alors, on va pas le laisser de côté aussi. Alors, à l'instar de tant d'autres territoires touristiques, le Périgord égrène sa longue liste de festivals qui vont de celui des musiques du monde à Montignac, celui de musique classique et de chants lyriques de la Vézère, ou celui du Périgord noir, passant par celui du Mimos à Périgueux. Tout se concentre sur la période estivale à un public varié, mêlant autochtones et vacanciers. Il y avait une caractéristique à retenir de ces différentes concentrations d'événements culturels, ce serait celle de la valorisation du patrimoine à travers une activité artistique et culturelle, que ce soit dans les parcs municipaux de Périgueux ou dans les églises comme celle de Saint-Léon-sur-Vézère. Le Festival des Jeux du Théâtre est sans doute le plus bel exemple du mariage réussi entre Vieille Pierre et Ardémaux, que ce soit sur la Place de la Liberté ou dans le jardin de l'Anterne des Morts, l'alchimie opère. La tendance actuelle serait une diversification des événements au cours de l'année. Le Festival du cinéma en novembre à Sarlat s'inscrit dans une logique de valorisation du 7e art dans le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine. tous les deux ans, le Salon du Livre Gourmand à Périgueux. Alors c'est quand même une institution quand même bien établie et qu'il faut aller voir. Donc tous les deux ans, le Salon du Livre Gourmand à Périgueux a attiré un public nombreux et même des célébrités comme l'ancien chancelier fédéral d'Allemagne, Helmut Kohl, et son épouse. À 1996, ça fait quand même quelques lunes, mais enfin, c'était à noter. L'ensemble de ces festivals rencontre toujours un beau succès à l'instar de Symphonia, mais semble aujourd'hui concurrencé par une nouvelle forme de mise en tourisme plus individualisée. Visite de musées la nuit, pique-nique ou marché gourmand, au cœur des sites touristiques, les vacances se veulent du sur-mesure. Ils veulent voyager dans le temps, comme dans les parcs d'attractions sur le Périgord, des années 1900, au Bourna, par exemple. Et le Bourna, c'est à voir aussi. Hein. Dans les entrailles de la Terre ou les grottes interactives ou dans le ciel, avec les montgolfières, face à ces nouvelles demandes, les acteurs du tourisme font preuve d'une inventivité sans limite et se démarquer du reste concurrentiel. Alors bien sûr, il y a les villages du Périgord, il y a aussi les marchés bon, du samedi soir, et puis il y a bien sûr la Dordogne, Nice, la Vézère, etc. Alors, les marchés du samedi soir attirent quand même, les marchés du matin au soir, pardon, attirent quand même beaucoup de monde, surtout je crois que Sarlat fait un marché nocturne le mercredi, au milieu de la semaine. Alors, les marchés du matin au soir, rien ne semble être plus ancien et pourtant toujours autant d'actualité en Périgord que les marchés. De nombreux bourgs accueillent des marchés qui permettent à la population locale d'acheter et vendre des produits du quotidien. Brantôme avait ainsi obtenu, grâce à Pierre de Mareuil, la tenue d'un marché hebdomadaire en 1539. C'est pas récent. À Piégut, la foire accueille jusqu'à 250 étals en été et ce rayonnement date de 1642. Le terme de foire est le plus utilisé pour décrire ce mélange de vente de nourriture, d'objets du quotidien, de volailles, etc. Les bistrots font le plein, les nouvelles s'échangent en patois et certains, comme celui de Thiviers, pourront faire durer toute la journée. D'autres, comme la foire des croquants au cœur de la Double, n'avaient lieu que deux fois par an. Concurrencés par de nouvelles formes de commerce, ils ont lentement décliné à la fin du XXe siècle. Les marchés de Périgueux, le mercredi et le samedi, ainsi que les marchés spécialisés aux truffes à Sorge, au Cep à Saint-Saud, à Villefranche-du-Périgord, ou au Gras, le marché au Gras à Sarlat. Ils réussissent pourtant à tirer leur épingle du jeu en mêlant professionnels et curieux. L'essor du tourisme a cependant redonné un coup de jeune à ces foires qui se parlent désormais du terme plus pittoresque de marché. En hiver, les marchés spécialisés comme le marché au Gras de Périgueux attirent un public nombreux, mais c'est l'été que les marchés rencontrent un franc succès. Impossible de circuler entre les marchands au Bug, à Estijac ou à Aimé, entre le 14 juillet et le 15 août. Oui, c'est quand même la période où il y a le plus de touristes. Les spécialités locales et les produits issus de circuits courts se mêlent aux tapenades provençales et autres attrape-rêves. Enfin, attirer vers les marchés un public plus jeune, une nouvelle formule a fait son apparition dans les années 2010. Les marchés nocturnes de producteurs ont fleuri et permettent surtout de déguster sur place des produits locaux, attirant plusieurs centaines de personnes les soirs d'été, avec un étonnant mélange de vacanciers en famille et de locaux venant avec assiettes et couverts. Ces moments de convivialité animent les plus beaux villages et sites du département. Voilà, je vais arrêter là cette lecture de Sublime Périgord. Philippe Grandcoin et Hélène Lafaye Fouetti, et avec des illustrations de Maurice Albe. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne semaine, mais pas trop pluvieuse quand même. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.